Bonjour, bonjour. Bienvenue à tous, bienvenue à tous pour ce forum et pour cette table ronde consacrée à l'exportation de la démocratie, où j'ai le plaisir de recevoir Pierre Hasner, spécialiste des relations internationales, spécialiste notamment des conflits, et qui s'est beaucoup intéressé à l'expansion de la démocratie en Europe particulièrement, et Basma Khodmani, politologue qui dirige un think tank, l'Arabe Réforme Initiative, et nous en dira plus, j'imagine, en cours de cette table ronde. Alors, je dois vous expliquer que cette table ronde a une particularité, et je dois vous l'expliquer justement avant que l'on commence, c'est qu'elle est enregistrée dans le cadre de l'émission de Brice Couturier, ici présent, émission de France Culture, du Grain à Moudre. Alors, ça veut dire pour nous qu'il y a une petite contrainte technique. Au fond, notre table ronde va comprendre deux parties. Une partie enregistrée et une partie non enregistrée. Donc, dans un premier temps, nous allons débattre ensemble pendant 40 minutes. Ensuite, nous dégagerons, on va dire, une première conclusion, voilà, qui permettra à Brice Couturier de refermer l'émission. Et à la suite de cela, nous reprendrons le débat entre nous et bien sûr avec vous, comme cela se passe dans toutes les tables rondes de ce forum. Voilà. Alors, je vais, dans un premier temps, moi, essayer de lancer le débat et ensuite nous rebondirons, nous débattrons ensemble comme nous le faisons habituellement dans les tables rondes. Voilà. Alors, il me semble que quand on réfléchit à l'exportation de la démocratie...
Attends, parce qu'il y a un truc que je dois lancer, tu sais.
Ah oui.
Et après, il y a quelque chose à enregistrer très court avant... Alors, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes à Grenoble pour ce forum Réinventer la démocratie organisé par la République des idées, dont vous êtes Florent Guénard, le secrétaire général.
Alors, quand on réfléchit, je disais donc, quand on réfléchit à l'exportation de la démocratie, il me semble que se présentent plusieurs difficultés. Alors, la première difficulté, elle tient au fond à l'histoire récente qui tend à associer la promotion de la démocratie aux incertitudes, voire aux échecs, de la politique américaine en Irak et en Afghanistan. Donc c'est la première difficulté, c'est qu'au fond, si l'on veut réfléchir à l'expansion de la démocratie, à son exportation, il faut la détacher, s'efforcer de la détacher de ce qui peut nous apparaître comme une politique de la puissance. Mais une fois que cette dissociation s'est opérée, il me semble qu'arrive une deuxième difficulté. C'est qu'au fond, la promotion de la démocratie nous paraît comme étant si évidente qu'elle nous paraît lumineuse. Qui ne souhaite pas, au fond, que les régimes autoritaires se démocratisent? Qui ne souhaite pas qu'on aille dans le monde vers plus de démocratie? Seulement, une telle évidence, me semble-t-il, peut nuire au regard critique que nous devons porter sur l'expansion de la démocratie. Oui, d'accord, exporter la démocratie, mais comment le faire? Dans quelles conditions? Et quelles sont ces conditions? Enfin, il me semble qu'il y a une troisième difficulté qui permet d'introduire le débat. Il y a aujourd'hui comme un triomphe historique de la démocratie. Depuis la fin du totalitarisme, a-t-elle encore des adversaires idéologiques forts? Seulement, là encore, n'y a-t-il pas dans l'expansion démocratique historique une dilution même de son principe? Au fond, et c'est la question qu'on pourrait poser, ce qu'on peut répandre quand on dit exporter la démocratie, ce qu'on peut répandre, n'est-ce pas une démocratie seulement minimale, resserrée? Alors, je vais poser une première question. Au fond, n'y a-t-il pas des préconditions à la démocratie? Est-ce qu'on peut exporter la démocratie dans n'importe quelle condition? Est-ce qu'il n'y a pas des conditions? Et si oui, de quelle sorte elles sont? Culturelles, économiques, institutionnelles, étatiques, par exemple? Ou alors, et s'il y a des conditions, ce qu'on peut exporter, est-ce que ce n'est au fond qu'une démocratie resserrée, c'est-à-dire seulement des procédures électorales? Pierre Hasner.
Je répondrai sur deux points. D'abord, l'intitulé même de notre débat où je suis très heureux que ce soit la démocratie peut-elle s'exporter, et non pas peut-on exporter la démocratie, parce qu'il y a ces plusieurs problèmes. Est-ce qu'elle peut être amenée par quelqu'un d'autre, et par en haut, par la force, c'était la méthode Bush, ou par la contagion, par l'imitation, la persuasion, par l'effet même de la diffusion technologique, ou par l'encouragement de celle-là. Aujourd'hui, à la suite des échecs de Bush aux États-Unis, on parle beaucoup plus de soutien à la démocratie que de promotion ou d'exportation qui fait vraiment un petit peu commercial. Et on dit aussi qu'il y a exporter la démocratie comme produit ou comme processus. Et on se rend compte qu'il s'agit plutôt d'un processus. Alors, ça, c'est votre question directe. Quelle démocratie ? On peut exporter les institutions, mais je voudrais rappeler ce qui peut-être est la meilleure formule pour toute cette problématique, c'est que le sociologue Ralph Dahrendorf avait dit au lendemain des révolutions de 89 en Europe, pour avoir une démocratie, il faut trois choses, une constitution, un marché et une société civile. Une constitution, vous pouvez l'avoir en 6 mois. Un marché, vous pouvez l'installer en 6 ans. Mais une société civile, il faut bien 2 générations. Naturellement, c'est des chiffres comme ça, fantaisistes. Mais pour indiquer l'éternel problème de la loi et des mœurs, c'est que le marché et la constitution ne peuvent fonctionner correctement que s'il y a une société civile, et celle-ci ne peut résulter que d'un lent processus. D'où cette distinction que vous venez de faire entre une démocratie minimale. Je crois que ce qu'on peut, et ça se produit d'ailleurs de soi-même, c'est détruire les hiérarchies traditionnelles, les communautés traditionnelles, mais il n'est pas du tout garanti qu'ensuite, s'il y a des élections, s'il y a une démocratie, cela ne tourne pas ou au populisme ou à l'oligarchie financière ou à un régime tyrannique. Là, ce sont les peuples eux-mêmes, avec l'encouragement pacifique de l'extérieur pour ceux qui veulent la construire, ce sont eux, les peuples seulement, qui peuvent la construire.
Puisqu'on est à la question des conditions et des prérequisites à la démocratie, je voudrais demander à Basma Khodmani pourquoi c'est toujours par 3 que vont les conditions. Là, on vient d'avoir les 3 conditions de Ralph Dahrendorf, une constitution, un marché, une société civile. J'ai sous les yeux également un papier de Zaki Laïdi qui dit que l'implantation de la démocratie passe par la réalisation de 3 conditions essentielles. Vous voyez toujours le chiffre 3. D'abord, l'aspiration démocratique doit rencontrer les aspirations nationales. Par exemple, c'est le cas du Kurdistan aujourd'hui. Il doit exister une classe sociale qui a un intérêt matériel et moral à l'expression de revendications pluralistes, ce que Zaki Laïdi appelle des importateurs démocratiques, ce qui correspond un petit peu à ces agents de liaison dont parlait Toynbee dans à peu près le même cas. Et il faut surtout, et ça rejoint ce que disait Florent Guénard à l'instant, il faut qu'il y ait un contexte mondial favorable. Zaki disait, il faut que un pays n'apparaisse pas comme donneur de leçons. Et là, on est bien dans le cadre du cadre irakien où les Américains ont voulu cette espèce de démocratie en treillis, comme on dit, qui semble effectivement échouer. Est-ce que cette troisième condition-là n'est pas absolument essentielle dans la conjoncture dans laquelle nous sommes aujourd'hui ? Basma Khodmani ?
Certainement. Il est évident que la politique américaine n'a en rien favorisé un débat sain sur ce sujet, et il est à reposer aujourd'hui une fois que l'on a fini avec cette approche. Je pense, cela dit, que nous sommes face à plutôt la difficulté d'un environnement régional incertain et instable, qui n'est pas seulement la politique américaine vis-à-vis de l'Irak, mais qui est également la composition même de certaines sociétés, d'ailleurs d'une majorité des sociétés de ce monde, puisque nous n'avons pas beaucoup d'États qui sont ethniquement et culturellement homogènes, en particulier dans la région visée qui est celle du monde arabe, nous avons des sociétés très composites et diversifiées. Et en réalité, le grand défi et le grand danger, il est plutôt dans le risque de dislocation, le risque de désintégration, de fragmentation, de tension ethnique, religieuse et culturelle. Alors, est-ce que ça, c'est un prérequis, comme vous l'indiquez ? Non, la réponse, il faut tout à fait, au contraire, retourner la situation et dire quels sont les principes démocratiques qui doivent être appliquées en premier dans des sociétés de ce caractère-là. C'est-à-dire qu'on trouve aujourd'hui dans ces sociétés une grande inquiétude quant au risque d'une ouverture politique totale, à la fois des dirigeants, mais aussi de la société. On voit cette inquiétude, elle est présente et on ne peut pas la nier. Et les groupes sociaux sont extrêmement demandeurs d'ouverture politique, mais ils sont aussi très légitimistes, ils sont très attachés aux institutions, ils veulent que les institutions servent de base parce qu'on a la peur et la hantise de l'État failli, de l'État qui échoue et donc de la décomposition à l'irakienne, comme on a connu d'ailleurs en Algérie 10 ans plus tôt ou 15 ans plus tôt, une descente aux enfers d'un État qui semblait pourtant un État fort. Donc il y a cette grande angoisse qui est la décomposition possible de ces sociétés. Donc passe-t-on pour la démocratie par le vote de la majorité, et on ouvre le débat notamment sur les élections que Florent Guénard évoquait tout à l'heure, ou bien faut-il au contraire partir sur les bases de pactes nationaux qui sont des pactes qui garantissent le droit des minorités, des pactes de ce qu'on a appelé à un moment donné les pactes de stabilité pour certains pays d'Europe centrale et orientale.
Oui, alors, est-ce que ça veut dire, Basma Khonmani, que ces principes démocratiques dont il faudrait faire la liste, est-ce que ça veut dire qu'au fond, ils ne sont pas complètement théorisables dans une théorie qui serait générale et qui s'adapterait à tous les contextes, indépendamment justement des circonstances particulières qui président à ces contextes. Est-ce qu'on est obligé de faire du cas par cas et d'envisager les choses de manière singulière à chaque fois? Ce qui veut dire au fond qu'on peut raisonner sur l'exploitation de la démocratie, mais dans certaines limites, et qu'on est condamné à une certaine forme de pragmatisme.
Non, je crois qu'il y a deux principes généralisables. Le premier est, face à des sociétés composites, quel type de conditions, quel type de pacte, quel type d'accord sont nécessaires préalablement à une élection libre et à l'ouverture totale du champ politique. Et la deuxième est, quel est le lien, l'articulation entre les conflits régionaux, c'est-à-dire l'environnement sécuritaire régional et souvent au-delà de la région, c'est soit des grandes régions, soit même au niveau avec des dimensions, des ramifications internationales. Quelle est l'articulation entre l'action intérieure de la société civile, des partis politiques, de ces importateurs ou de ces agents de liaison que vous évoquiez, avec la préoccupation sécuritaire et les retombées des conflits régionaux. Et ce lien n'a pas encore été bien identifié, analysé, et on n'en a pas tiré les conséquences en termes de stratégie. Mais faut-il donner la priorité au conflit, à la résolution des conflits ? Faut-il donner la priorité aux agendas, entre guillemets, nationaux, internes? La réponse est que les deux doivent trouver une articulation qui, jusqu'à aujourd'hui, on expérimente seulement sur le terrain certains mouvements sociaux, certaines initiatives qui évoquent ces deux questions, mais intellectuellement, je crois qu'on n'a pas fait encore ce lien de façon intéressante et utile.
Très intéressant. Est-ce qu'on peut rapidement évoquer un exemple qui pourrait illustrer justement la manière dont on pourrait combiner justement ces deux types de principes démocratiques ? Un exemple, par exemple, dans le monde arabe que vous connaissez bien.
Oui, moi, je prendrais l'exemple le plus évident et le dilemme le plus posé le plus souvent, qui est, faut-il passer d'abord par une résolution du conflit israélo-arabe ou faut-il d'abord démocratiser les sociétés arabes, changer les régimes politiques et ensuite aller vers une solution de ce conflit. Il y a une crise des intellectuels, justement, parce qu'ils n'ont pas... Il y a ceux qui pensent dans un sens, qui pensent qu'il faut donc donner la priorité à la sécurité nationale face au conflit avec Israël, et par conséquent, la sécurité des individus, les droits des citoyens passent après. Et puis, à un moment donné, on a eu une phase dans laquelle une grosse partie de ces élites a dit... maintenant, ça fait 40 ans que nous attendons, nous n'obtenons ni la résolution du conflit, ni la démocratisation, alors allons plutôt vers un programme de réforme interne. Et là, il y a mobilisation, il y a eu mobilisation, il y a encore mobilisation autour de demandes de réforme intérieure, de démocratisation intérieure. Et puis, le conflit rejaillit et je dirais presque éclabousse à nouveau ces mêmes intellectuels qui ont décidé pourtant donner la priorité aux réformes intérieures. Et là, ils sont devant ce dilemme. Alors nous avons les libéraux qui tiennent ce discours et puis des nationalistes qui disent non, on est toujours face à ce grand conflit qui détermine à la fois nos opinions publiques, les comportements de la rue, des mouvements politiques qui façonnent notre société civile, notre culture de la violence, de la paix, de la démocratie, de la tolérance. Tout ça est conditionné par la résolution de ce conflit. Par conséquent, il faut d'abord la résolution de ce conflit. Le dilemme est encore posé.
Piratzner.
Je voudrais introduire une dimension complémentaire que Basma connaît bien, c'est la dimension de l'identité ou de la culture. Il me semble que nous sommes tous moralement universalistes, les droits de l'homme, etc. Et en même temps, culturellement, nous n'avons plus l'arrogance d'antan, nous entendons respecter les différentes cultures. Et on entend souvent dire aussi que les pays qui n'étaient pas démocratiques, en particulier les pays arabes, sont ouverts à des réformes politiques tant qu'on ne touche pas à leur culture. Mais une question brûlante, la situation des femmes, est-ce que c'est de la politique, est-ce que c'est de la morale, est-ce que c'est de la culture? Et la chose très concrète aujourd'hui pour l'Afghanistan. Obama très raisonnablement dit on ne veut pas faire l'amalgame comme Bush l'a fait entre Al-Qaïda et l'Irak, nous on n'en a pas à l'islam, on n'en a même pas aux talibans, on en a à Al-Qaïda, à ceux qui ont un projet global, les autres on peut négocier avec eux. Et le gouvernement pakistanais donne la province de Swat, laisse les talibans la gouverner, introduire la charia. Maintenant quoi, le monde entier voit une jeune fille recevoir 100 coups de bâton parce qu'elle a été vue dans la rue sans son mari, son père ou son frère. Et aussitôt, il y a révulsion. Et donc, c'est un dilemme très concret. Est-ce qu'il faut en passer par là? J'ai un collègue, très bon spécialiste de l'Inde et de l'Afghanistan, qui me dit on ne pourra pas éviter une réislamisation de l'Afghanistan. Ce qui est important, c'est que ce ne soit pas Al-Qaïda, c'est que ça ne fasse pas terrorisme global. Mais moyennant quoi, tous les femmes, les gens de Kaboul qui se sont engagés pour la démocratie sont absolument horrifiés. C'est un dilemme dont on ne sait pas la solution et je ne sais pas ce qu'en pense Basma en particulier.
En tout cas, il y a un très bon article de Shirin Ebadi, l'avocate iranienne qui a eu le prix Nobel de la paix en 2003, dans ce supplément que Le Monde consacre au colloque auquel nous participons aujourd'hui à Grenoble, la République des idées, qui s'appelle « La démocratie n'est pas un luxe à l'occidental ». Mais ça m'amène à une question que j'avais envie de vous poser à l'un et à l'autre. Nous raisonnons depuis le début de cette émission comme si l'expansion de la démocratie était un phénomène inéluctable et comme si finalement il y avait une espèce de darwinisme social qui faisait qu'inéluctablement la démocratie allait s'imposer au reste du monde. Est-ce que nous n'avons pas tendance à prendre les 20 dernières années d'expansion de l'idéal démocratique, disons les 30 dernières années, les années 80 et 90 de la fin du XXe siècle, pour un mouvement inéluctable, automatique, encore une fois darwinien, alors qu'il aurait simplement coïncidé avec un moment historique précis qui est celui où on dominait finalement sur le plan économique et culturel les nations libérales démocratiques. Aujourd'hui que ces mêmes nations apparaissent en réalité en déclin, les valeurs dont elles sont porteuses semblent beaucoup moins à la mode et dans une certaine mesure semblent cesser la démocratie et les valeurs libérales qui étaient les nôtres, qui accompagnaient notre expansion et il faut bien le dire notre impérialisme, notre domination, notre hégémonie culturelle et économique, ces mêmes valeurs tendent à refluer en même temps que nous refluons nous-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Asner? Là, j'ai tendance à résumer un petit peu le dernier bouquin de Robert Kagan.
Oui, j'allais justement le citer, Kagan, mais d'une certaine manière, c'est les néoconservateurs américains se recyclent en quelque sorte. Ils n'ont plus la guerre froide, mais ils disent maintenant l'ennemi, le capitalisme a gagné. Je ne sais pas s'ils le disent encore depuis un an, mais c'est leur thèse. Mais il y a un grand conflit qui remplace la guerre froide entre le capitalisme libéral et le capitalisme autoritaire, Chine et Russie. Et comme vous dites, il n'y a pas d'inévitabilité. Le grand phénomène, c'est la régression de la Russie. Ça, c'est évident. Alors, la question, est-ce que cet autoritarisme capitaliste est stable et destiné à durer, Ou est-ce que, moi je crois, le véritable problème, c'est moins ça, c'est que nous n'avons pas le temps de définir vraiment la démocratie, mais je trouve qu'aujourd'hui, tout le contexte, il y a la lutte entre la globalisation et les phénomènes identitaires qu'elle produit en réaction, et là, il y a partout ces deux phénomènes, d'une part l'argent, la corruption, nous vivons quand même dans un mélange d'oligarchie et de démocratie, et d'autre part, les sentiments identitaires et notamment religieux qui peuvent l'emporter sur la démocratie. Il y a la démocratie victorieuse, mais est en crise. Je ne crois pas que cette formule de capitalisme autoritaire soit très stable à la fin. Je crois plutôt qu'ils devront s'orienter ou dans la voie d'une certaine démocratisation ou dans la voie d'une certaine fascisation, parce que les populations quand même sont des populations qui mordent au nationalisme, mais en même temps regardent le plus souvent vers la démocratie à l'occidentale. Mais il reste que ce sont des conditions extrêmement difficiles où la démocratie est bonne contre ses adversaires, mais produit une insatisfaction générale parce qu'elle ne répond pas aux besoins d'identité et parce qu'elle elle n'arrive pas à maîtriser des phénomènes de corruption et d'inégalité plutôt croissante.
Oui, la question du mouvement inéluctable vers la démocratie est une question très intéressante, parce que c'est vrai que vous faites allusion aux théories inspirées notamment par Fukuyama, qui montraient au fond que la démocratie allait dans le sens de l'histoire universelle et que, au fond, par l'instauration de cette démocratie libérale, on allait vers une fin de l'histoire. Bon, alors oui, évidemment, et cette théorisation, elle a inspiré fortement les néoconservateurs. Très bien. Mais je crois quand même, il me semble, qu'on en est sorti de cette théorisation. On en est vraiment sorti, et du coup, c'est ce qui rend intéressant qu'on repose aujourd'hui la question de l'exploitation de la démocratie. Et je crois même, d'ailleurs, c'est ce qui rend possible qu'on puisse se réinterroger aujourd'hui sur l'exploitation de la démocratie. Et donc, c'est une dissociation supplémentaire, d'une certaine manière, parmi celles qu'on a pu évoquer, qui aujourd'hui est à faire et qui est en train de se faire. Je crois qu'au sein des théories, notamment américaines, des théoriciens qui s'intéressent beaucoup à l'expansion de la démocratie, je crois qu'on en a fini avec cette démarche générale d'inscription de la démocratie dans un mouvement historique qui, au fond, dispense véritablement de s'interroger sur la nature de la démocratie et qui dispense aussi de s'interroger sur les moyens adéquats pour la promouvoir. Donc, et il me semble que c'est un nouveau contexte qui s'ouvre aujourd'hui, précisément parce qu'on en a terminé. Alors, là aussi, le discrédit des néoconservateurs nous aide quand même considérablement à reposer la question de l'exploitation de la démocratie et la reposer en des termes qui me permettent, à mon avis, d'en préciser complètement les enjeux. Basma Kolmani.
Je crois qu'il y a de toute évidence une crise de confiance dans les principes démocratiques ou dans le package qui est proposé en termes de passage à la démocratie, de transition démocratique. Parce que, et ça c'est une question que se pose un certain nombre de politologues occidentaux eux-mêmes, qu'est devenue cette démocratie à l'occidentale? Et notamment, comment l'applique-t-on dans des pays en développement, parce que la question est véritablement là, et notamment, qu'a-t-on fait avec les principes libéraux, qu'a-t-on fait de la justice sociale? Si le principe de justice a disparu, ou est passé au troisième rang après les libertés civiles, les droits de l'homme, là, on est devant un vrai problème. L'aspiration est d'abord... alors peut-être pas forcément la constitution d'une classe moyenne. La constitution d'une classe moyenne est le résultat de cela. Mais dans un premier temps, on a besoin d'un État développementaliste, un État qui se soucie du progrès, de la condition des populations. C'est la première aspiration. Autrement dit, si on doit d'abord introduire cela et pas les droits de l'homme, vous trouverez certainement un très grand répondant dans les pays en développement, et pas seulement dans les pays arabes. Alors on va trouver dans les pays musulmans que ceci se traduit par une grande popularité des mouvements islamistes, mais ailleurs ce sera d'autres mouvements populistes qui se revendiquent d'une culture particulière, d'une ethnie particulière. L'Amérique latine est pleine d'exemples de ce type-là. C'est le retour à la voix du peuple. Comment passe-t-elle dans le discours? Comment passe-t-elle dans les politiques publiques? Comment s'exprime-t-elle? Par qui est-elle représentée? On a eu beaucoup d'organisations des droits de l'homme qui ont prospéré dans l'ensemble des pays du tiers-monde. Ce sont elles qui étaient porteuses des libertés publiques, de la lutte contre la torture et contre la répression. Mais la vérité, c'est que les porteurs du programme social et des aspirations sociales étaient beaucoup plus déstructurés, fragmentés, à l'exception peut-être des mouvements islamistes et de certains mouvements sociaux qui n'étaient pas organisés dans un discours politique encore, mais qui maintenant le sont beaucoup plus.
Pierre Esner, est-ce que, dans une certaine mesure, je disais, moi j'ai tendance quand même à penser que la démocratie, l'expansion de la démocratie est loin d'être un phénomène inéluctable et que même il est en régression, et l'exemple de la Russie est effectivement un exemple extrêmement probant. De ce point de vue-là, est-ce que nous, Européens et les Américains, nous n'avons pas perdu de consort? Je veux dire très clairement, nous, les Européens, nous avons agité la carotte, à savoir l'adhésion à notre espace économique, qui est effectivement le premier de la planète et qui est extrêmement attractif, l'adhésion à l'Union Européenne elle-même pour nos voisins les plus proches, parce que nous sommes un ensemble de paix extrêmement prospère. Donc nous avions cette carotte que nous appelons le soft power. Les Américains agitaient leur bâton, qui est le hard power, ce que certains ont appelé l'idéalisme en treillis, ou le capitalisme, la démocratie balistique. Mais finalement, le bâton et la carotte semblent échouer également. Finalement, ce que les Chinois et les Russes semblent apprécier, c'est un développement basé sur des formes d'autocratie qui semblent tout aussi efficaces à enrichir les peuples que la démocratie helstinienne dont personne ne veut plus en Russie. Donc est-ce qu'il n'y a pas un moment de reflux? Et est-ce que ce reflux ne nous incombe pas également à nous, les porteurs de la carotte, et aux Américains, les porteurs du gros bâton?
Je crois que c'est vrai en partie, mais qu'il ne faut pas plus généraliser cela qu'on a généralisé, surtout du côté américain, les trois grandes vagues de la démocratie qui sont quand même impressionnantes à la suite des deux guerres et un pays entier. Et je crois que, en particulier pour l'Europe, l'élargissement a permis, ça c'était une carotte qui a marché, que des pays ont fait des réformes pour se retrouver là.
Et contre-exemple, la Biélorussie, oui. Ça n'a pas l'air de marcher.
Non, bien entendu. Mais c'est pourquoi je dis qu'il faut faire du cas par cas, que ça dépend partout. Et par exemple, prenez le cas de la Géorgie, il y a eu des réformes économiques très réelles. C'est un pays beaucoup plus libre qu'avant, mais quand même, il y a des tendances autocratiques de M. Saakashvili. Moi, je dois dire que moi-même, mis à part ces pays, etc., je me dis toujours que il y a eu, avant la guerre, le communisme, le capital, le libéralisme et le fascisme. Le fascisme a été le premier vaincu, ensuite le communisme, le libéralisme était triomphant. Mais maintenant, je me demande quand même si ce qui ressort un peu partout, avec le capitalisme qui, à son tour, sous sa forme récente, a l'air de ne plus marcher, il y aura évidemment une sorte de compromis entre État et marché, entre social et économique, etc. Mais ça peut avoir la forme d'un compromis social-démocrate, ça peut avoir la forme d'un compromis fasciste. Et moi, je vois quand même des tendances au fascisme, au nationalisme, au fait que tout ça, c'est la faute de l'étranger ou de telle ou telle catégorie, qui me paraissent monter. Mais donc c'est une lutte partout, et cette lutte en particulier, il me semble que le totalitarisme au sens plein est rendu difficile par la globalisation, mais que la démocratie au sens plein aussi, notamment tout cet argent transnational, toute cette corruption, s'il y a un phénomène universel, c'est bien celui-là dans les pays comme la Russie, au Nigeria, aux États-Unis, partout. Et il y a des phénomènes qui rendent extrêmement difficile à la démocratie réelle de s'installer. Mais il reste, en tout cas dans la partie du monde que je connais, avait une grande aspiration à la démocratie, même si la mise en pratique n'exclut pas des phénomènes tout à fait caricaturaux ou criminels.
Oui, mais alors avec ce que vous venez de dire, Pierre Asner, on est ramené au fond à la question qu'on posait et qui, par laquelle on a commencé cette réflexion. C'est la question des préconditions de la démocratie. On a évoqué les facteurs culturels. On n'a pas encore complètement évoqué et réfléchi à la question des critères économiques. C'est-à-dire, au fond, est-ce que c'est complètement illusoire de se demander si la démocratie nécessite un certain état de développement économique. Si ce développement économique, c'est une autre question, si ce développement économique, au fond, peut y mener, ou si, finalement, capitalisme et autoritarisme, et il y a des exemples dans l'histoire assez nombreux, font assez bon ménage et qu'on n'a pas d'espoir à obtenir, on n'a pas beaucoup d'espoir à avoir sur cette question-là.
Moi, je crois qu'il n'y a pas de déterminisme. Les Bush croyaient qu'un déterminisme des institutions, il suffit par n'importe quel moyen de faire des élections et le reste suivra. Il y a eu la doctrine normale des sociologues, c'était que la démocratie était possible à partir d'un certain niveau de vie. Il y a un sociologue américain très connu, Lipset, qui en avait fait la théorie, et déjà Aristote, les classes moyennes, etc. Il y a l'éternel contre-exemple de l'Inde, qui est une démocratie très inégale, mais une démocratie quand même. Et justement, ce qu'on s'est dit après dans la phase d'expansion, que ça pouvait très bien marcher aussi dans des pays qui n'avaient pas le niveau de vie. Mais il fallait qu'il y ait quand même une idée de justice sociale, une idée de développement. Bien que là aussi, je me rappelle, il y a eu une grande polémique du temps de Carter, où la droite, Madame Kirkpatrick, disait les dictatures de droite, c'est pas grave parce que inévitablement ensuite elles deviendront démocratiques, alors que le marxisme-léninisme, lui, ne s'en va jamais. Pour le Chili, elle n'avait pas tort. Il y a eu Pinochet, mais aujourd'hui, le Chili est un pays démocratique. Et après des dictatures, au Brésil, en Argentine, il y a la démocratie. Mais il y a aussi la montée de nationalisme autoritaire. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de déterminisme. Il y a des conditions plus favorables ou plus défavorables. Et en particulier, la question que je posais tout à l'heure, la question culturelle, la question religieuse, apparaît comme l'une des plus difficiles.
Mais je me permets de revenir quand même à la charge, si j'ose dire. D'accord, il n'y a pas de déterminisme. On peut être d'accord, il n'y a pas de déterminisme général. On ne peut pas construire des schèmes universaux sur la manière. Mais si quand même on s'interroge sur l'exportation de la démocratie, bon, écartons tout déterminisme, mais essayons quand même de saisir des relations de causalité, même particulières. On est bien obligé quand même de se demander si tel développement économique va véritablement mener, oui ou non, à un développement en termes de libéralisme politique, en termes de droits individuels, de responsabilité des élus, etc. etc. Donc, je crois que c'est très difficile, au fond, c'est ce qui fait tout l'enjeu, au fond, qui fait l'enjeu de cette question, mais c'est très difficile, au fond, de dire, mais bon, oui, il n'y a pas de déterminisme, parce qu'il faut quand même bien qu'on puisse appuyer cette théorisation de l'exportation de la démocratie, au moins sur des relations causales, alors même si elles ne sont pas universelles, des relations causales qui puissent quand même avoir cette dimension causale qui évite, au fond, qu'on soit purement lié à la contingence des événements. Pierre Asner.
Oui, enfin, on ne va pas avoir une discussion épistémologique. Il y a des causalités, mais il y a des causalités multiples. Je ne vois pas pourquoi il faudrait privilégier uniquement la causalité économique. La question est aussi celle, d'une part, de la politique poursuivie, par exemple, ce à quoi a fait allusion Bassman. Certainement, le consensus de Washington ne menait pas à la démocratie. Et l'idée qu'ont beaucoup de gens, notamment aux États-Unis, que j'ai spécialement étudié, c'est que Bush voyait lier étroitement la promotion de la démocratie à la lutte contre le terrorisme. Il disait, s'il y a démocratie, il n'y a pas de terrorisme, il n'y a pas de guerre. Il faut la lier plutôt au développement. Et là, quand on fait de l'aide au développement, se préoccuper de favoriser ce qui peut conduire davantage à la démocratie que non. Et d'autre part, même des choses, des politiques épouvantables comme celle de Pinochet peuvent, en un sens, conduire plus tard. Je me rappelle en Russie, en 89, il y avait deux exemples inattendus contre Gorbatchev, c'était la Chine et le Chili. Beaucoup d'intellectuels disaient on ne peut pas avoir à la fois la libéralisation économique et la libéralisation politique. Faisons d'abord la libéralisation économique, contrôlons les syndicats ou pas de syndicats, et la libéralisation politique viendra après. Et voilà, je ne crois pas que, pas plus que la météo, la sortie de la crise, que nous ayons un chemin avec des étapes, ce que croyaient les Américains Rostow avec les étapes de la croissance économique, ce que croyaient en un sens Marx, industrialisation, capitalisme, etc. Toute l'histoire du communisme a fait que finalement il a vaincu là où il ne devait pas vaincre, il n'a pas vaincu là où il devait vaincre. Donc je suis plus relativiste que vous, il y aura toujours des causes, mais il y a toujours un ensemble de causalités dont l'une ou l'autre peut prédominer selon les cas.
Basma Khodmani, pour résumer un peu ce débat, on peut dire qu'effectivement, pour certains penseurs, le développement économique est une précondition pour l'accès à la démocratie. D'autres, effectivement, invoqueront l'exemple de l'Inde pour dire que ce n'est pas toujours le cas. On peut aussi prendre parmi les pays qui ont prétendu d'abord assurer une amélioration du niveau de vie de leur population, les petits dragons asiatiques. Après tout, il y a 20 ans, la Corée du Sud, Singapour, la Thaïlande n'étaient pas des démocraties, elles le sont devenues. Enfin, Singapour, je suis d'accord avec vous, c'est un autoritarisme. Mais par contre, on peut aussi prendre l'exemple de ces pays issus de la décolonisation dans le Moyen-Orient ou en Afrique, qui ont prétendu d'abord garantir l'amélioration du niveau de vie de leurs habitants avant la transition démocratique, et qu'ils n'ont jamais atteint le stade de cette fameuse transition démocratique. Donc, est-ce qu'on peut tirer une règle générale de cette question du développement démocratique comme préalable, du développement économique comme préalable à l'accès à la démocratie ou non ?
Je crois que les 25 dernières années d'expérimentation des programmes d'ajustement structurel, de privatisation, de retrait de l'État, dans beaucoup de pays en développement, ont montré que ces programmes sont appliqués et sont pervertis sur le terrain de manière monstrueuse. Autrement dit, que l'on a, au lieu d'avoir une privatisation saine, on va avoir des entreprises en faillite qui sont larguées, si on peut dire, au secteur privé, sans garantie sociale aux travailleurs, etc. On va avoir une décentralisation qui s'accompagne d'une corruption absolument inouïe. Donc la question n'est pas tellement une question de développement économique, elle est plutôt dans les pratiques qui s'instaurent dans ce processus de transformation économique vers des économies de marché, des économies libérales. Grand point d'interrogation, la corruption, qu'en fait-on ? Alors la grande différence, c'est qu'il y a de la corruption en Occident comme il y en a au Moyen-Orient ou en Afrique ou ailleurs. Il y a des pays où elle est impunie et d'autres où elle est punie. C'est la grande différence. Donc quand il y a impunité, eh bien, ça se manifeste autrement. On a une montée et pratiquement une corrélation évidente entre niveau de corruption et montée des mouvements intégristes, islamistes, qui dénoncent la corruption. Voilà le lien qui est absolument stratégique. Donc le développement économique n'est pas la condition première. Il semblerait au contraire qu'il faut instaurer des pratiques politiques de transparence et de responsabilité des responsables politiques avant de pouvoir avoir une transformation économique.
Donc le développement suit la démocratisation et non pas l'inverse. Parce que l'émission termine vers une conclusion, je voudrais faire passer à un tout autre sujet cette émission. En gros, les règles du jeu international ont été établies. Là, je vais citer un petit peu, j'ai cité Kagan, je vais citer Cooper, Robert Cooper. Cooper dit, en gros, les règles du jeu international ont été établies dans les années 90 par les démocraties triomphantes. C'était effectivement l'époque où la démocratie semblait s'étendre par un phénomène quasi darwinien. Mais les nouvelles grandes puissances, les nouveaux acteurs du nouveau jeu international, la Russie et la Chine en particulier, le disent en permanence, elles ne veulent pas jouer d'après les règles du jeu établies par les démocraties libérales à l'époque de leur apogée, les années 90. Et ça pose un certain nombre de questions, le heurt de deux logiques, en particulier la logique de la souveraineté, la logique moderniste, pour reprendre les termes de Cooper, qui est celle de ces grandes puissances nouvelles, la Chine et la Russie, heurt de plein fouet la logique interventionniste, droit de l'hommiste, qui est celle des démocraties libérales. On le voit par exemple dans des affaires comme le Tibet, comme le Soudan, comme la Tchétchénie, comme le Kosovo, où on voit effectivement la logique postmoderniste, je dirais, pour reprendre les termes de Cooper, des démocraties libérales, heurter de plein fouet la vieille logique westphalienne de la souveraineté des États qui ne veulent pas, dans leur précaré, voir arriver imposer les donneurs de leçons occidentaux. Est-ce que vous ne pensez pas effectivement que nous sommes arrivés à un point où il faut renégocier le cadre législatif international pour faire place à ces revendications de puissance qui sont celles de ces nouveaux acteurs qui vont compter aujourd'hui, Pierre Hassner?
Oui et non, je crois absolument qu'il faut renégocier, mais pas tout à fait dans le sens que vous dites. Je pense que même pendant la guerre froide, il y avait des règles implicites, non légales, d'emploi de la force. Les Américains savaient qu'ils pouvaient bombarder le Nord-Vietnam, mais pas envahir le Vietnam, ou qu'ils ne pouvaient pas bombarder l'Europe de l'Est, et les Russes qui pouvaient aller en Afghanistan, mais qui ne pouvaient pas aller où les États-Unis étaient directement impliqués. Aujourd'hui, surtout sous Bush finissant, mais actuellement avec Poutine, il y a une grande incertitude. La doctrine américaine de la guerre, qui je crois est pratiquement abandonnée, de la guerre préemptive ou préventive, ou disant partout où il y a des États voyous, bien sûrement ils ont des armes de destruction massive, sûrement ils les donneront à des terroristes, sûrement ces terroristes nous attaqueront, donc nous sommes fondés à attaquer les premiers. Ça, on peut attaquer n'importe qui. Et la doctrine de monsieur Poutine et Medvedev disant là où il y a des Russes, des russophones, là nous pouvons intervenir, et puis la zone d'intérêt privilégié, on ne sait pas non plus jusqu'où ils peuvent aller en Ukraine, en Crimée demain, en Géorgie, donc il est urgent de voir. Et là, je trouve qu'il y a en effet des proportions à garder, comme pendant la guerre froide, la Finlande était un parti démocratique, libéral, mais qui faisait attention à ne pas gêner trop l'Union soviétique. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la Finlande est dans l'euro et pense à l'OTAN. Donc, ils sont quand même assez inquiets. Et moi, je ne crois pas du tout qu'à notre époque, l'Occident ou les pays, ne parlons pas de l'Occident, parlons des pays amateurs de liberté, puissent dire, voilà, l'Europe avec qui on vient de faire un partenariat transatlantique, la Géorgie, l'Ukraine, bon, les Russes font ce qu'ils veulent. Il y a une compétition normale, c'est leur étranger proche, c'est notre étranger proche aussi, mais il faut des règles de cette compétition et notamment ne pas fomenter la guerre civile ou même intervenir directement, annexer deux provinces du pays, etc. Mais ça, c'est extrêmement urgent, mais personnellement, je crois qu'il y a toujours une espèce de côte mal taillée. Je donnais l'exemple dramatique de qu'est-ce qu'on fait au Pakistan et en Afghanistan, il y a une côte mal taillée entre le réalisme et la considération démocratique. Aucun pays, ni Clinton, ni Carter, ne peut s'occuper uniquement de démocratie, mais aucun pays démocratique ne peut abandonner la démocratie comme but indirect ou ultime.
Une remarque très rapidement sur cette question. À mon avis, il n'y a pas aujourd'hui de possibilité de trancher sur cette question de recul des valeurs démocratiques et de modèle. Je crois qu'il faut d'abord regarder quels sont les États qui semblent concilier une montée en puissance internationale avec une situation démocratique intérieure. Ces États-là, ce sont quand même l'Inde. Le modèle chinois n'est pas attrayant, le modèle russe n'est pas attrayant pour les opinions publiques dans d'autres pays.
Même en Afrique ?
Pour les États, pour les gouvernements, oui, mais pas pour les opinions publiques. On regarde le Brésil, c'est un modèle de montée en puissance, de décollage économique, tout en étant une démocratie qui s'approfondit, qui se consolide. Donc ce sont ces schémas, c'est plutôt ces modèles-là, où la Turquie est dans une moindre mesure, qui réussit une démocratisation intérieure et une vraie réussite économique. Voilà des modèles qui inspire, qui donne un peu d'espoir quant à l'avenir de cette conciliation entre souveraineté et démocratie. Je voudrais simplement revenir un instant sur la question que Pierre Hassner a évoquée tout à l'heure et qui a trait aux mœurs et aux lois. Je pense que sur la question des femmes, qui est une des questions clés qui se posent dans le monde musulman en particulier, je crois que la vraie réponse, elle est dans l'ouverture d'abord de l'espace politique. Et l'information et la création de liens horizontaux entre les citoyens. C'est-à-dire qu'il y a un isolement du citoyen qui était dû à l'absence de médias libres, à l'absence de circulation de l'information. L'ouverture de l'espace politique, l'injection de médias libres, internationaux comme locaux d'ailleurs, permet aux citoyens de changer complètement de comportement et au gouvernement de changer de comportement. Et je crois que c'est là un outil stratégique qui fait que vis-à-vis des femmes, on peut revendiquer des lois parce qu'on sait qu'il y a dans un pays voisin ou un peu plus lointain des exemples de processus de transformation du statut de la femme qui est intéressant. C'est par cette information que passe le changement de comportement à la fois de groupes de femmes et de groupes de citoyens de façon générale. C'est vraiment là la révolution qu'on attend dans les comportements qui est le résultat de cette ouverture de l'espace médiatique et de la liberté d'information.
Ok. Donc pour notre émission, ça s'arrête là, c'est bon, hein, on est juste dans les temps. Bon, on avait encore une minute d'orable, mais je pense qu'on n'avait pas le temps d'ajouter quoi que ce soit à ça, et ça fait une belle chute de toute façon. Maintenant, on peut rester entre nous, si voilà. J'ose dire.
on peut se détendre, nous ne sommes plus enregistrés.
Florent, voilà.
C'est pas complètement terminé.
Attendez, il va se dire des horreurs.
Mais au fond, moi, la question que j'aimerais poser fait le lien avec ce que vous venez de dire, Basma. Quand vous dites qu'il faut d'abord, au fond, travailler sur les mœurs davantage que sur les lois. Et au fond, c'est en travaillant sur... en travaillant sur des dispositifs, on est d'accord, sur des types de droits de liberté fondamentale, c'est ça, liberté d'opinion, liberté de presse, on va créer une culture démocratique. C'est l'idée.
Non, pas tout à fait. En réalité... Je crois qu'il y a un phénomène objectif qui est la liberté des médias. Dans un premier temps, elle n'intervient pas dans les pays eux-mêmes, elle intervient par la mondialisation médiatique, c'est-à-dire par les réseaux transnationaux, les chaînes satellitaires, et tout ce qui apporte l'information, et l'Internet, bien entendu, qui apporte l'information aux citoyens, même dans les pays les plus autoritaires. Donc là, il y a déjà une révolution mentale qui informe le citoyen. Il n'y a rien encore qui est changé, pas forcément dans la législation intérieure, dans certains pays oui, mais dans d'autres non, et puis il n'y a pas de changement de mœurs. Il y a uniquement une information qui circule. Et cette information, elle amène assez rapidement, d'ailleurs, des changements de comportement des groupes sociaux et des individus.
C'est ce que j'appelle vraiment la formation de mœurs démocratiques.
Après, on regarde à un niveau plus profond de mœurs et de culture sociale. Et là, on a un niveau qui ne va pas être transformé aussi rapidement par la liberté d'information ou l'ouverture de l'espace public qui se rapporte aux structures sociales, à la condition de la femme, au rapport entre les communautés religieuses. Ce sont des... ou à l'ouverture de la cellule familiale. Bon, là, on a des pratiques qui sont beaucoup plus ancrées, profondément ancrées, qui ne seront pas transformées en quelques années par l'ouverture d'un espace d'information. Celle-ci, par contre, je crois que la voie la plus rapide, c'est quand même les lois. C'est-à-dire qu'il faut légiférer et heurter ces mœurs sociales, à condition que le gouvernement soit partant, bien entendu. Il est partant sur un certain nombre de domaines, oui.
Qu'on puisse s'appuyer quand même sur une aspiration de la population à en finir avec quand même le
c'est un rapport dialectique entre les lois qu'on instaure et qui induisent des changements de comportement. Je vais donner un exemple qui est très, très, très simple et qui a été un succès extraordinaire. C'est presque une révolution silencieuse. En Égypte, l'introduction d'une loi qui s'inspirait de la loi islamique, de la charia, ou qui se justifiait par la charia, qui autorisait les femmes à demander le divorce, en perdant beaucoup de droits, mais à demander le divorce, c'est-à-dire à sortir d'un mariage où elles ne sont pas heureuses. En 2 mois, on avait un transfert d'environ 40 000 cas de demande de divorce vers cette nouvelle loi, pour l'application de cette nouvelle loi. Les juges étaient contre, les hommes évidemment étaient contre, mais très rapidement, cette loi a fait s'est instaurée ou s'est installée, si vous voulez, comme légitime, parce qu'elle a une légitimité religieuse, et a changé les comportements. Alors, je ne vous dis pas que les femmes égyptiennes sont très heureuses et se portent bien, mais c'était un exemple de changement par la loi qui introduit un changement de mœurs sociales. Et je crois tout de même que c'est en légiférant d'une part et par les réformes politiques qu'on transforme le social et le culturel.
Voilà,
c'est beaucoup plus rapide, sinon on attend 30 ans, que l'éducation change, que les programmes d'éducation, etc. Là, on est parti pour plusieurs générations. La voie de changement, on souhaiterait la voir de son vivant, donc on regarde plutôt ce qui est efficace sur une durée de 5 à 10 ans. Je pense que c'est les institutions politiques et les lois.
Oui, mais je pense que c'est très important ce que vous venez de dire. Parce que, alors, je reformule au fond ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, on travaillera à l'exportation de la démocratie quand on arrivera à créer, alors, par les lois, agissant sur les mœurs ou en agissant effectivement, comme vous voulez le dire, par d'autres biais que purement législatifs, mais quand on arrivera à créer une société démocratique. Or, c'est très important, parce que ça veut dire précisément que l'exportation de la démocratie en termes purement institutionnels, telle qu'on a pu la théoriser, ça ne marche pas, ça ne peut pas fonctionner. Ça, on aurait au fond des démocraties assez formelles, des démocraties purement électorales, le terme a été inventé, qui n'ont au fond de démocratie que de façade, et une élection au fond qui peut, comme Pierre Asner le disait tout à l'heure, favoriser quand même un certain nombre de populismes, qui ne met pas en place véritablement la responsabilité des élus face à la population. Et donc c'est bien en tant que forme de société qu'on pourra exporter la démocratie.
Ça me paraît être un acquis extrêmement important et
qui est nouveau, à mon avis, par rapport aux théorisations.
Contre toute bonne gestion d'un débat, je voudrais, en tant que co-animateur, ajouter quelque chose, mais ça renchérit sur la question de Florent Guénard. Effectivement, est-ce qu'un des obstacles que rencontre l'expansion de la démocratie depuis un certain nombre d'années, c'est l'usage malencontreux qui en a été fait dans certains pays par une ethnie majoritaire? Je pense aux théories de Farid Zakaria, Illiberal Democracy, et de Amichan surtout, qui montrent que dans certains cas précis, quand on a d'un seul coup instauré le principe du scrutin majoritaire dans des pays qui ne le connaissaient pas, des ethnies majoritaires qui avaient été longtemps, je pense aux chiites en Irak par exemple, qui avaient été longtemps dominés par des ethnies minoritaires, à savoir les sunnites en Irak, qui sont très minoritaires, et bien ces ethnies majoritaires en ont profité du scrutin majoritaire et de la démocratie pour écraser littéralement les minorités qui les avaient parfois opprimées pendant longtemps. Le cas que Amichan étudie, c'est celui par exemple en Malaisie, de la minorité chinoise qui en réalité tenait le commerce depuis longtemps, mais qui a été véritablement écrasée par la majorité malaise quand la démocratie et le scrutin majoritaire s'est développé dans ce pays. Donc effectivement, on comprend que certaines minorités soient un peu inquiètes de voir le scrutin majoritaire s'installer.
Bien sûr, mais ça me permet de venir sur deux points, sur une partie de notre sujet que nous avions au début, mais qui est quand même l'aspect international. Sur l'exemple de Basma, j'aimerais savoir d'où vient cette loi qui a changé le divorce. Est-ce que c'est quand même d'un exemple étranger, ou même, Dieu sait que nous savons tous, et nous l'avons tous dit et écrit, que la politique de démocratisation du Grand Moyen-Orient, par l'exemple de l'Irak, était un échec spectaculaire et catastrophique. Mais je crois qu'il y a eu quand même certaines choses où l'influence de ces plans s'est manifestée par ce qu'on a appelé un libéralisme défensif, c'est-à-dire faisant certaines concessions pour plaire aux Américains ou pour apaiser la population, qui peuvent, comme d'ailleurs Gorbatchev pour la Russie, entraîner plus loin que ce que souhaitaient les dirigeants. Donc l'exemple concret de cette loi qui a été si importante, qu'est-ce qui a amené le gouvernement à la favoriser ou à la passer? Et quant à ce que vous dites, c'est un vieux problème qui se posait déjà au lendemain de la Première Guerre mondiale, où on a fait des traités pour les minorités, pour protéger les minorités, qui n'ont pas tellement été suivis. Mais ça, on sait bien, et ça, c'est la question, est-ce que l'ONU existe, est-ce que le Conseil de l'Europe existe? C'est un problème dont on se préoccupe toujours, la tyrannie de la majorité et la vengeance des anciens opprimés sur les anciens oppresseurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut garder les choses telles qu'elles sont.
Sur les lois et leurs sources, et je crois que c'est important parce qu'on a deux différents types de lois qui sont introduites avec des sources différentes. Dans le cas de la loi sur le divorce, c'est une bataille de 15 ans dans laquelle il y a tout un travail d'exégèse que font beaucoup de femmes et des juristes en concertation avec l'institution religieuse, avec des imams, avec des interprètes donc, du Coran, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'opposition de ce milieu religieux. Donc c'est une bataille très longue qui aboutit par un consensus construit un peu avec toutes les institutions qui comptent, et en prenant en compte toutes les valeurs religieuses qui sont là, en disant c'est bien issu de notre tradition, donc c'est légitime. Là où nous avons par ailleurs, ça c'est c'est un exemple qui est vraiment particulier parce que les autres lois sont inspirées des principes démocratiques, de lois occidentales, tout ce qui concerne maintenant l'introduction de certains textes concernant les pratiques dans les institutions de sécurité contre la torture, la nécessité de transparence, des cours pour punir quand il y a torture ou quand il y a mauvais traitement, etc. La culture des droits de l'homme a fait son entrée dans pratiquement tous les pays. Il y a un discours des droits de l'homme qui a pénétré même les institutions de sécurité, même les milieux les plus durs. Donc, quand même, il faut bien voir qu'il y a un travail qui finit par se faire. On a une capillarité quand il y a des pays proches et puis par un travail de longue haleine des institutions et pas forcément des gouvernements. Hein. Il faut que ce soit des organisations des droits de l'homme, des institutions de la société civile, des syndicats qui travaillent dans ces pays-là pour dire il y a des droits économiques et sociaux. Alors on finit par dire, bon, ben, c'est vrai, il y a des droits économiques et sociaux. Ça change les comportements des entreprises, du gouvernement, des institutions à la fois sécuritaires, religieuses, économiques, politiques. On a tout de même une pénétration lente, plus lente que l'opinion et les médias n'ont le temps et la patience de mesurer. La réalité, c'est que ceci est en train de se faire. Donc, l'exportation de cette démocratie et de ces principes, ils sont absolument indispensables. Après, c'est la séquence de va-t-on faire des élections d'abord qui vont tout chambouler et amener une majorité qui va écraser les minorités ? C'est une grande question. Et pourtant, c'est par les élections qu'on arrive à développer la culture démocratique le plus rapidement. C'est vraiment par la pratique elle-même que, sur le terrain, on apprend ce que c'est qu'un discours politique, ce que c'est que cultiver une base sociale et populaire, comment on attire les votes, comment on modère son discours pour élargir sa base, etc. Et c'est vraiment par ces méthodes-là qu'on apprend. C'est une élection, puis une élection suivante. Au bout de 3 élections, on voit des vrais changements de comportement. C'est donc sur une durée de 10 ans, on arrive à voir des transformations. Donc je ne suis pas sûr, Florent Guénard, qu'on puisse dire non, il faut d'abord un changement de culture pour pouvoir introduire des élections. On est dans une période de turbulence qu'il faut accepter. Elle peut amener des groupes qui déplaisent profondément et qui ne seront pas démocratiques. Alors cela, c'est vrai qu'il faut réfléchir plutôt à quels sont les garde-fous qui font que dans un système politique où une majorité arrive et qu'elle n'est pas favorable à la l'égalité des citoyens et la neutralité de l'État vis-à-vis de la religion, de la culture, etc., quels sont les garde-fous que l'on peut instaurer. Je crois que le débat, il est plutôt là. Sinon, on reverrouille le système et on dit, alors, l'autoritarisme est la seule réponse.
Oui, merci. Alors, je pense que là, il est temps de passer aux questions de la salle, s'il y en a. Je ne sais pas où est le micro. Oui, il est là-bas. Il y a une question ici. Il y en a plusieurs. Là, juste, voilà. Ah bah, c'est...
Merci.
Ce sera après votre tour.
Moi, la réponse à la question « La démocratie peut-elle s'exporter ?» je dis, en tout cas, ni avec les baïonnettes, ni avec les B-52. Alors, je me pose pas trop la question de savoir ce qu'on a à faire dans un autre pays en tant que force militaire, parce que je suis un citoyen français et un citoyen européen, et je pense qu'il faut effectivement s'interroger sur les valeurs qu'on porte ou qu'on porte pas, ou qu'on porte de façon perverse. Je fais référence au livre de Zvetan Todorov, là, un livre récent qui s'appelle « La peur des barbares », et il a mis en sous-titre « Et ce qui risque de nous rendre barbares nous-mêmes ». Donc, le même Zvetan Todorov qui, en l'occurrence, demande que toutes les troupes de l'OTAN partent d'Afghanistan, en analysant toutes les raisons qui justifiaient ou qui justifieraient l'intervention en Afghanistan, et en se rendant compte que finalement, les talibans vont en se développant. Si on regarde le cas de l'Irak, des gros exemples, l'Irak, l'Afghanistan et peut-être demain le Pakistan. L'Irak, très bien, l'Europe a sauvé son âme. Ceci dit, c'était facile, puisque avec Bush, il suffisait de faire ou de penser le contraire de ce qu'il faisait. Maintenant,
pas mal de pays européens étaient en Irak, je vous signale même la majorité d'entre eux, c'est pas l'Europe, c'est la France, l'Allemagne, la Russie, la Belgique.
La majorité de l'Europe et des opinions...
Non, la majorité était de l'autre côté, cher ami. Il y avait l'Italie, l'Espagne, la Pologne, etc.
Merci, excusez-moi, laissez-moi terminer mon intervention. Les opinions politiques européennes étaient toutes contre la guerre en Irak. C'est pas le cas du tout, Et c'est la confusion totale en Afghanistan. Et donc, il faut effectivement s'interroger aujourd'hui sur l'Afghanistan. Et moi, je pense que la facétie de prétendre qu'on construira une défense européenne en rejoignant l'OTAN, ça, c'est effectivement une chose qu'il faut réfléchir et à laquelle il faut combattre. Et donc, interrogeons-nous en tant que citoyens français et européens. Arrêtons de soutenir les dictateurs corrompus qui captent les économies à leur propre profit. Supprimons les conditions du développement de l'islamisme, c'est-à-dire construisons des économies qui servent l'ensemble du peuple et luttons contre les régimes corrompus. Vous avez vu hier, il y a eu trois présidents africains qui étaient menacés de passer en tribunal, et le tribunal de Paris a décidé de casser la procédure. Donc c'est contre ça qu'en tant que citoyen français et en tant que citoyen européen, il faut combattre. Souvenons-nous que Jules Ferry, qui était un grand progressiste, qui a généralisé l'éducation en France, avec ces mêmes théories, a justifié la colonisation au Maghreb.
Bon, est-ce qu'on peut prendre une autre intervention et après, et notamment sous forme de questions. Alors, il y en a de partout.
Bonsoir, merci de vos interventions. Et en fait, j'aurais deux questions à vous poser. La première, c'est la démocratie peut-elle s'exporter sans ethnocentrisme? Et la seconde, ça serait exporter la démocratie ne passe-t-elle pas aujourd'hui par un vrai pouvoir exécutif et d'intervention dans les organisations internationales?
Pierre Asner.
Non, pour le deuxième, c'est certainement souhaitable et c'est certainement pas en voie d'être réalisé parce que il n'y a pas un gouvernement mondial et parce que l'ONU est profondément divisée. Il y a un droit de veto des grandes puissances, donc on ne fera rien au Tibet ou en Tchétchénie ou quand les Américains font quelque chose, et même sur Israël où il y a une grande majorité à l'ONU, mais les Américains mettront leur veto. Donc je crois que malheureusement c'est cette idée qui serait très, très bien, qu'on cherche toujours à avoir une légitimation par l'organisation internationale, mais je ne crois pas que quelque chose soit automatiquement juste si au Conseil de sécurité les Américains ont réussi à avoir l'accord l'abstention des Russes et des Chinois et l'accord des Français et des Anglais. Je crois que malheureusement, on n'en est pas là. Et l'ethnocentrisme, c'est vrai. Simplement, tout est dans l'application. Ce que je disais au début, nous devons tous respecter les cultures. Mais est-ce que nous devons ne pas intervenir quand il y a génocide? Il y a une convention internationale contre le génocide. Est-ce qu'on peut dire, Hitler mettait les juifs, les tziganes et les homosexuels dans des chambres à gaz? Ben, écoutez, c'est une culture que nous ne comprenons pas. C'est pas à nous de... montrer notre ethnocentrisme en intervenant contre.
Oui, je suis d'accord, mais c'est pas exactement complètement la problématique de l'exportation de la démocratie ici. Je pense que c'est je réponds très rapidement, mais je suis assez d'accord avec vous. Il faut se méfier de nos tendances à l'ethnocentrisme qui peuvent être plus ou moins prononcées, etc. Mais j'attire votre attention sur le fait que dans ce débat, il y a un certain nombre d'arguments qui ont été notamment émis par Basma Khodmani sur l'idée qu'il pouvait y avoir précisément une démocratisation par contagion d'un modèle et qui, au fond, ne reposait pas sur une exportation à tendance ethnocentrique. D'autres questions ?
Tu veux répondre ? Je voudrais juste réagir rapidement d'abord à la question de monsieur concernant l'Irak et l'Afghanistan. Le dilemme dans ces pays-là est de savoir dans quelle mesure on va reconnaître les réalités des structures sociales existantes et qui, finalement, assure la cohésion du tissu social et national, et dans quelle mesure va-t-on essayer de les entraîner vers les pratiques institutionnelles modernes, autrement dit politiques, et non reliées à leurs appartenances primaires. Et là, c'est véritablement un dilemme très très difficile, parce qu'on peut dire aujourd'hui en Afghanistan, écoutez, finalement les talibans c'est une réalité, on ne peut pas faire autrement, ils sont là, il faut faire avec, par conséquent remettons-les au pouvoir ou donnons-leur la possibilité de réinstaurer ou restituer leurs pratiques religieuses, juridiques, y compris la condition de la femme. Ça n'est pas tolérable, et en même temps ils sont partis d'un jeu politique. Donc il y a un travail qui, personne n'a la réponse, mais il y a un travail qui est d'amener des éléments de cette culture et de ces traditions vers une traduction politique praticable, parce qu'il faut une représentation dans les institutions politiques en même temps qu'une efficacité de ces institutions politiques. Et tout le dilemme est là. C'est pareil en Irak, mais on a tellement joué en Irak la carte identitaire, sectaire, religieuse, confessionnelle, et tout d'un coup, quand on a organisé des élections, on s'est aperçu que les gens avaient des comportements politiques. C'est-à-dire qu'à travers les communautés, on retrouvait non seulement des liens tribaux qui mettaient ensemble des chiites et des sunnites, mais aussi des liens idéologiques. Tout d'un coup, il y avait un parti qui rassemblait chiites, sunnites, kurdes, etc. Donc, on semblait tirer l'Irak en arrière, alors qu'il était capable peut-être d'aller vers plus d'institutions fondées sur des principes politiques de citoyenneté. Donc c'est vraiment un jeu extrêmement complexe, on apprend, tout le monde apprend et personne n'a la réponse, mais ce qui manque certainement, c'est que dans la reconstruction, ce qu'on appelle la reconstruction des États et la reconstruction nationale, ce qui manque certainement, c'est qu'on ne part pas du cœur de la société pour reconstruire une formule politique. On va reconstruire des institutions, une constitution, des finances, des ministères, une administration, etc. Mais où est la formule politique qui fait que tout ça devient légitime et la population va finir par se reconnaître dans ces institutions que l'on... La formule politique est absente. La réflexion est encore très embryonnaire sur cette question. Ma deuxième réponse, c'est sur l'ethnocentrisme. Je voudrais simplement réagir en disant: je crois que nous avons besoin véritablement de se montrer beaucoup plus humbles dans l'exportation de la démocratie. Il y a des principes qui semblent indiscutables, mais il y a tout un débat qui lui-même a lieu parmi les Occidentaux. Quelle est la place de la religion dans l'État? La réponse en Grande-Bretagne et en Amérique n'est pas la même qu'en France. Qu'est-ce qu'on fait du communautarisme? Est-ce qu'on le reconnaît, on ne le reconnaît pas? Redemandez aux Suisses, ils vous diront tout à fait le contraire de ce que disent les Français, etc. etc. Donc nous n'avons pas de réponse, et puis surtout nous sommes ignorants des réalités sociales de ces pays-là. Donc il faut trouver les instruments, les véhicules qui sont neutres, qui ne vont pas intervenir nécessairement et créer des contradictions internes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les médias sont un instrument stratégique parce qu'il est neutre, il expose le gouvernement, la société, mais il n'intervient pas, il ne porte pas des valeurs, il n'est pas porteur de valeurs.
D'autres questions? Bon, d'autres questions? Là, Thomas, il y avait des... Voilà.
Permettez-moi de verser au débat de... le souvenir d'une image qui m'avait amusé, et c'était, je crois, l'exposition de Bruno Latour, et le dessin était proposé par Peter Sloterdijk. Alors, ça s'appelait Instant Democracy, comme le café instantané. Alors, on voyait B-52 survolant le désert et parachutant des parlements gonflables. C'est marqué parlement gonflable, et le dessin ne disait pas si le député lui-même gonflable était inclus dans le package ou dans le paquetage, comme vous disiez tout à l'heure.
Ça m'amène à une question que je brûlais de poser à Pierre Asner. C'est cette question de l'exportation de la démocratie, ce que j'ai appelé l'idéalisme en treillis, enfin je crois que c'est l'expression qui avait été utilisée dans je ne sais plus quel bouquin, ou de ce qu'on a appelé aussi la démocratie balistique, c'est-à-dire effectivement le fait
moi,
que...
Moi je parlais de wilsonisme botté.
Le wilsonisme botté, voilà. Donc toute cette idée que dans l'exportation de la démocratie, il y a un aspect moral, hein, c'est qu'on veut effectivement que les autres bénéficient des bienfaits, des libertés dont nous bénéficions nous-mêmes, mais il y a aussi un aspect intéressé et stratégique de la part des démocraties occidentales qui est de pouvoir compter sur des régimes frères à travers le monde parce qu'effectivement ils sont plus faciles des interlocuteurs plus faciles sur le plan international, et ça mène évidemment les Français à ricaner beaucoup de l'arrogance américaine en Irak, en Afghanistan comme monsieur, mais ça m'amène aussi à une espèce d'autocritique en tant que Français. Après tout, l'idéalisme beauté, c'est les Français qui l'ont inventé pendant les guerres révolutionnaires. Nous avons voulu, nous aussi, imposer au reste de l'Europe, à l'Italie et aux Allemagnes, enfin aux Italies et aux Allemagnes, notre magnifique modèle jacobin et républicain, et nous en avons profité, évidemment, pour nourrir nos soldats, notre armée, nos institutions, etc., en pillant les pays auxquels nous apportons... Alors, évidemment, c'est l'autocritique, mais ça débouche aussi sur un constat positif. Dans tous ces pays, nous avons suscité des forces politiques nouvelles, jacobines, par exemple en Italie ou en Allemagne. Nous avons créé un nationalisme allemand qui a permis à ce pays de s'unifier aux alentours de 1871. Bref, est-ce que par cet idéalisme beauté, malgré lui quelque part, on n'a pas tendance à développer des forces politiques qui finalement, quelque part, comme on le disait à l'instant, vont avoir tendance à poser les bases d'une démocratie très différente de celle que les envahisseurs avaient en tête au départ.
Oui, je crois qu'il y a beaucoup de vrai. C'est pour ça que je dis toujours que c'est très ambigu, il y a du cas par cas, et même l'Irak, c'est épouvantable, le nombre de morts, le nombre les millions de réfugiés, et tout ça. Et néanmoins, c'est quand même si ça tourne mal comme je le pense, ça peut tourner à la guerre civile, c'est moins sanguinaire et tyrannique que du temps de Saddam Hussein. Et d'ailleurs, les Américains aujourd'hui, la démocratie, ils s'aperçoivent que ça ne sert pas forcément leurs intérêts, comme on a vu au Moyen-Orient, où ils ont arrêté assez rapidement parce qu'ils ont vu que ça pouvait se tourner contre eux. Mon ami Olivier Roy disait, les Américains veulent un Moyen-Orient qui soit démocratique, stable et pro-américain et pro-israélien. Ils peuvent peut-être avoir l'une de ces conditions avec beaucoup de chance d'eux, mais pas les trois ensemble. S'il est démocratique, il sera plus anti-américain que les royaumes traditionnels vers lesquels ils sont vite revenus. Donc on ne sait jamais ce qui arrive. Et en effet, nous avons peut-être contribué à la démocratie allemande, nous avons contribué aussi à un nationalisme allemand qui n'a pas été très favorable aux intérêts de la France. Donc voilà, tout est ambigu, on ne sait jamais, mais je crois que quand même on doit concilier nos intérêts, c'est pour ça que les gouvernants sont élus, avec quand même notre type de régime, où ça a toujours été le cas. Entre Athènes et Sparte, les Athéniens mettaient une démocratie où ils gagnaient, les Spartiates, les oligarques. Staline a dit ça à Gillas, cette guerre, c'est pas comme maintenant, quand on gagne, on instaure son régime. C'est inévitable. Mais ce qui est évitable, il y a une discussion, par exemple, en France aussi, de savoir s'il faut dire on travaille pour les droits de l'homme ou on travaille pour la démocratie. Les Américains avaient tendance à parler de la démocratie et on dit ça c'est imposer notre modèle, c'est ethnocentrique, alors que les droits de l'homme c'est universel, tout le monde a signé à la déclaration des droits de l'homme. N'empêche que sur l'interprétation des droits de l'homme, on a encore vu maintenant à la récente conférence, c'est bon, est-ce que les droits de l'homme c'est aussi les droits de la femme, est-ce que c'est les droits individuels ou les droits collectifs, et il y a toujours un mélange d'intérêts, mais je ne crois pas qu'on puisse séparer à notre époque, que l'on puisse complètement séparer une pure réelle politique des intérêts nationaux et le type de choses auxquelles nous croyons et de régimes, que ce soit au nom de nos intérêts égoïstes ou que ce soit au nom de la peur de l'ethnocentrisme. Nous sommes ce que nous sommes et nous n'aimons pas spécialement, même si nos alliés les pratiquent, les atteintes aux droits de l'homme.
Oui. Il nous reste un petit quart d'heure, on peut peut-être prendre encore d'autres interventions. Il y a une question, allez, au fond.
J'ai demandé à prendre la parole, mais M. Asner vient d'y répondre. Au fond, la question est très simple. On peut partir de la Convention internationale des droits de l'homme de 1948. Elle est internationale, la Convention est universelle, donc elle doit s'appliquer théoriquement à tout le monde, et elle met en œuvre deux principes fondamentaux, la liberté et l'égalité, au moins sur le plan civil, mais pas sur le plan économique et social. Alors, il est évident, à l'origine déjà, l'Arabie saoudite a refusé de la signer, les Russes se sont abstenus avec tous les pays communistes. Et la question est de savoir, est-ce que ces valeurs qui viennent de l'Occident, est-ce que ces valeurs de base, qui sont uniquement sur le plan civil et civique et politique, mais pas sur le plan économique et social, sont-ils applicables universellement ? Nous l'avons cru, mais dans les, tout d'abord, le christianisme s'y est opposé très longtemps, même le Vatican n'admet pas réellement les droits de l'homme. Monseigneur Lustiger n'a pas admis les droits de l'homme en tant que tel. Les juifs, je n'en sais rien, peut-être pas. L'islam, est-ce qu'il refuse d'une certaine manière de tenir compte des droits de l'homme ? Et les Chinois en particulier ont dit « nous avons une culture tout à fait différente ». Donc, il y a la question fondamentale à se poser. La question est simple, mais la réponse, vous l'avez donnée pendant toute cette soirée. La réponse est extrêmement difficile. Y a-t-il une base commune, universelle de droits de l'homme, une base à minima qui pourrait s'appliquer partout ? Moi, j'espère que c'est possible, mais je suis un occidental. Mais est-ce qu'on peut comprendre qu'au Kenya, en Libye et en Chine, la réponse soit un peu différente.
Merci. Basma, un petit mot de réponse ?
Oui, moi, je pense que la réponse est d'abord oui. C'est un principe universel et applicable partout, quelle que soit la culture et la société. Je me risque à dire, dans n'importe quel contexte culturel, les droits de l'homme sont une chose compréhensible pour n'importe quel individu. La question devient, est-ce que les droits individuels, alors oui, avec la distinction que vous établissez, les droits civiques et politiques, non pas économiques et sociaux, là maintenant on a évolué aussi dans le débat et les organisations des droits de l'homme elles-mêmes ont intégré les droits économiques et sociaux comme une composante importante, essentielle, complémentaire et quasiment fondamentale. La question devient, est-ce que ce sont les libertés individuelles aux dépens de l'ordre social qui implique qui a une réalité dans la plupart des pays en dehors, disons, de l'Europe occidentale, des sociétés industrialisées et occidentales, nous avons une organisation collective, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux de solidarité qui représentent un coût au niveau des libertés individuelles. On n'est pas, l'individu n'est pas à 100% libre parce qu'il a une collectivité, une communauté. Elle est peut-être religieuse, elle est peut-être régionale, elle est peut-être familiale, elle est tribale, elle est ce qu'on voudra. Et cette composante-là doit être conciliée avec la liberté individuelle. Et je crois que la question est jusqu'où va-t-on dans l'individualisme ? Le grand débat dans les sociétés musulmanes aujourd'hui, c'est nous ne voulons pas de votre modèle social parce que cet individualisme à outrance, en réalité, il n'apporte pas le bonheur de l'individu. Le bonheur de l'individu, c'est aussi la fraternité, la solidarité, les liens sociaux, les liens communautaires. C'est ça qui fait que les gens sont... La majorité sera plus heureuse comme ça que par les libertés purement individuelles jusqu'au bout. Donc le débat, il est là. Quel modèle de société veut-on ? Et il est vrai que si on veut rester dans un ordre social, puisque nous n'appelons pas à la révolution dans ces pays-là, quand on dit exporter la démocratie, personne ne dit provoquons la révolution dans ces pays-là. Une révolution orange, c'est gentil, mais il ne faut pas que ça aille plus loin. Or, dans d'autres contextes où la violence structurelle est là, elle est au sein des sociétés, on ne va pas avoir des transformations aussi pacifiques et sympathiques. Donc, puisqu'on n'appelle pas à une révolution, on veut tout de même préserver un certain ordre social, quelque part. Et cet ordre social, il est fondé, je pense, dans beaucoup de pays, sur des réseaux de solidarité qui assurent la survie de certaines communautés. Pourquoi est-ce que ça n'explose pas tous les jours, alors que les gens ont $1 par jour pour manger ? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des gens dans la rue tous les jours ? Parce qu'il y a ces réseaux de solidarité qui font que la survie est possible. Donc, ils ont leur intérêt tout de même indéniable. Et on ne pourra pas convaincre les gens que la liberté individuelle, tout comme on ne pourra pas convaincre les femmes de sortir complètement du schéma traditionnel familial, quitter le voile, quitter la famille, sortir de l'autoritarisme parental et masculin, parce qu'il y a quelque chose à perdre. Parce que ça veut dire sortir d'un ordre social accepté et payer le prix. Et là, vous ne trouverez pas une majorité de femmes qui veut ça. Donc, il faut aussi intégrer ces réalités. Et je crois que le débat sur les droits de l'homme, il n'est pas lié au culturel, il est plutôt lié à un ordre social qui doit être préservé à moins d'une révolution.
Je crois que ce qu'a dit Basma est tout à fait juste, mais c'est un cas particulier d'un débat éternel qu'il y avait les libertés formelles et les libertés réelles pour Marx. Les pays communistes ont toujours dit, vous, vos libertés individuelles, nous, c'est le collectif. Ensuite, il y a eu les valeurs asiatiques que propageait Singapour. Et il y a aussi le débat qui était au cœur de la conférence d'Helsinki, de la sécurité européenne, des droits de l'homme contre la souveraineté des États. Malgré tout, le droit international repose sur la souveraineté, il y a l'ONU repose sur la souveraineté, et néanmoins, on a voté il y a quelques années une chose qui, sur le plan conceptuel, me paraissait très juste et qui a été votée à une grande majorité à l'ONU, c'est l'idée de la responsabilité de protéger, que l'État doit protéger les citoyens et les minorités, mais s'il ne le fait pas, la communauté internationale est en droit d'intervenir. C'est très bien, mais qu'est-ce qu'elle protège au Darfour, qu'est-ce qu'elle protège au Sri Lanka, etc. Et je pense que dans la logique de ce que disait Basma, eux peuvent dire, ça c'est une conception individualiste, que l'État est là pour l'individu et que donc quelqu'un d'autre peut se substituer, alors que avant tout la valeur fondamentale c'est l'indépendance du pays, ou c'est la communauté, et tout le monde a les deux aspects, mais il y a deux problèmes, c'est que la priorité est différente selon les sociétés, et que deuxièmement, quand on veut appliquer la responsabilité de protéger, on se heurte aux réalités des équilibres, et finalement on le fait que si c'est un petit pays où ce n'est pas très risqué de l'appliquer. Je suis d'ailleurs pour, tant mieux pour le petit pays, mais ça laisse beaucoup
tant pis pour la Tchétchénie,
tant pis pour la Tchétchénie, pour le Tibet, pour beaucoup de gens.
On a peut-être le temps encore de prendre deux interventions. Là-bas, ça a été réclamé avec insistance. Énergie.
Voilà. Malheureusement, je crois qu'au fur et à mesure que le débat avance, la confusion s'installe. Je suis tout à fait en désaccord avec ce que vient de dire Mme Kohnmani il y a un instant, quand elle dit que les droits de l'homme sont évidemment universels et que ça n'a rien à voir avec la culture. Et je suis très surpris d'entendre M. Hassner, qui a dit exactement le contraire au début du débat, de dire qu'il est d'accord avec elle. Alors bon, je vais donner mon point de vue. Je repars quand même de la distinction qu'avait fait M. Hassner. Il a dit nous sommes aujourd'hui tous moralement universalistes, mais que nous devons être moins arrogants au niveau des cultures. C'est un bon point de départ, mais ça ne me semble pas assez loin, d'autant plus quand je prends en compte les exemples que vous avez donnés. Vous avez donné l'Inde comme un bon exemple. Or, vous savez que l'Inde, en Inde, le système des castes est extrêmement vivace, et que c'est l'exemple même du contraire de la démocratie, du moins au sens tocquevillien, du thème. C'est-à-dire, c'est une société profondément hiérarchique et profondément inégalitaire. Vous avez parlé de Hitler de façon qui est tout à fait à côté du débat. Le régime Hitler, on ne peut pas parler d'ethnocentrisme dans ce cas-là, c'est un produit de nos sociétés à nous et pas un produit des sociétés traditionnelles. Donc ce que je voudrais dire, c'est que sur quoi nous fondons notre prétention à la validité universelle des droits de l'homme ? Sur la raison, sur la nature, ça veut dire que nous prétendons à l'égard des autres sociétés que nous avons un meilleur accès à la raison, à la nature qu'eux ? Non. Je crois qu'il faut faire un détour par le savoir anthropologique et savoir enfin décrire des sociétés qui sont différentes des nôtres de façon que ce ne soit pas purement négative. C'est-à-dire de dire, voilà, cette société est non démocratique, cette société est non égalitaire, cette société fait telle condition négative aux femmes. Non. Il faut savoir aussi décrire ces sociétés pour elles-mêmes, c'est-à-dire pour ce qu'elles sont et pour les valeurs qu'elles investissent. Là, je vous renvoie, parce que je ne peux pas développer trop, je suis juste quelqu'un qui doit faire un petit commentaire rapide à l'approche, par exemple, de Louis Dumont et de son anthropologie comparative, où il montre qu'il y a des sociétés qui sont traditionnelles, qui sont hiérarchiques, qui sont très inégalitaires parce qu'elles investissent avant tout la totalité comme valeur suprême. Et que nos sociétés, qui sont des sociétés profondément individualistes, investissent avant tout l'individu et les valeurs individualistes, c'est-à-dire l'égalité et la liberté. La société qui investit les valeurs individualistes n'est pas moins un produit de l'histoire et de la sociologie que les autres, si vous voulez. Donc je crois que malgré tout, dans l'ensemble du débat, vous êtes resté beaucoup trop ethnocentrique et que vous, comme si on avait, on pouvait, comment dire, fonder philosophiquement cette prétention à la validité universelle. Et je crois que tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut faire le détour par l'anthropologie, c'est-à-dire par la compréhension de ce qu'est l'autre, est simple, on ne pourra pas avoir un véritable débat et avoir une véritable action entre les sociétés autres et les nôtres. Autrement dit, pour conclure, je fais juste une conclusion, il faut se donner, oui, vous avez discuté longtemps, mais ça faisait au moins 20 minutes que j'ai donné la parole, il faut se donner enfin les outils intellectuels de la tolérance, comme dit Vincent Descombes, et pas simplement des outils sentimentaux ou des outils qui restent trop arrogants quand on dit, voilà, les droits de l'homme sont universels et n'ont rien à voir avec les cultures.
Bon, une réponse.
Puisque vous nous incitez à un détour intellectuel, je vous recommande le livre de mon collègue Jaffre Lowe, La démocratie par la caste, où vous verrez l'évolution de l'Inde et le rôle des castes, y compris dans le gouvernement indien, et le fait quand même qu'il y a de vraies élections en Inde. Et j'ai dit moi-même que c'était une démocratie extrêmement imparfaite. Mais vous restez à une vision caricaturale et visiblement vous n'avez pas lu la littérature sur le sujet. De même, sur les droits de l'homme qui sont occidentaux, pas universels, je vous recommande le livre d'un Indien, monsieur le prix Nobel Amartya Sen, sur les droits de l'homme dans les cultures asiatiques en particulier. Et sinon, quant à l'histoire de Hitler, c'était tout à fait valable parce qu'il y a une idéologie allemande qui était la séparation des cultures et les valeurs, même Thomas Mann l'avait écrit en 1914, les valeurs allemandes qui étaient la guerre, alors que la France et l'Angleterre, c'était le commerce et la technique. Il y a une justification par là. Et au moment de la Société des Nations, on reprochait à Goebbels le sort des Juifs, etc., il disait charbonnier, maître de soi, souveraineté. Donc il y a des problèmes sérieux que tout votre discours ne pourra pas écarter.
Bon, merci à tous. Nous sommes obligés de clore ici. Et je vous invite à suivre les débats qui auront lieu dès maintenant avec Claude Lefort, et puis demain et dimanche. Merci, au revoir.
Au nom de France Culture, je vous remercie de votre patience et de la participation que vous avez offerte à notre radio. Je rappelle que donc l'émission que nous avons enregistrée tout à l'heure sera diffusée à 18h30, 19h15, dans le cadre de notre émission à Julie Clérigny, à moi-même, Brice Couturier, qui s'appelle « Du grain à moudre ». Et donc, j'en profite pour faire un peu de promo pour notre émission de débat sur France Culture, tous les jours à 18h30. Merci. Tous les jours, du lundi au vendredi, et aussi ce soir. C'est celle qu'on a enregistrée va être diffusée là dans une demi-heure.